Je propose à Mathias Dufour de me rejoindre ainsi que monsieur de Margerie.
Merci à tous. Alors moi, j'ai déjà eu la chance de parler, donc je vais essayer de faire bref, puisque c'est toujours les derniers qui sont les plus pressés, donc on va pouvoir... L'important, c'est de laisser un peu la parole à Gilles Lemargerie, commissaire général de France Stratégie, qui nous fait l'honneur de venir conclure cette séquence. Peut-être... Puisqu'on a eu, je crois, des échanges extrêmement riches qui ont éclairé beaucoup de sujets différents, peut-être un petit peu de synthèse, si on prend un peu de recul, quelques constats et enjeux. Nous, on a fait le choix de considérer ensemble la transition écologique et la transition numérique, d'abord parce qu'elles sont interdépendantes. On voit bien que l'impact écologique de la tech est de plus en plus important et critiqué. Et inversement, le numérique peut aussi être une solution pour faire face à la transition écologique. Et c'est aussi deux transitions qui sont transversales, qui affectent massivement tous les secteurs et donc qui appellent à une approche conjointe. Deuxième point, on parle d'un sujet, les impacts RH de la transition écologique et la transition numérique. Pour nous, c'est un tsunami dans un angle mort. C'est massif et on n'en parle pas, ou très peu. Voilà. Et sans vouloir critiquer un représentant des pouvoirs publics, on essaie de discuter tous les jours avec les pouvoirs publics, il y a un retard dans la prise de conscience, mais c'est aussi le cas pour les décideurs privés, et d'où l'intérêt de ces états généraux. Or, il y a des risques majeurs à pas agir à la hauteur des enjeux, frein à la réalisation de la transition écologique, décrochage économique, aggravation de la culture, de la fracture sociale et territoriale, alors même qu'inversement, il y a vraiment des solutions qui sont actionnables, et on a essayé d'en présenter un certain nombre aujourd'hui. Et donc, il faut plus de moyens, mais il faut surtout une prise de conscience et une mobilisation de tous les acteurs, chacun à son niveau. C'est la raison pour laquelle on a fait des états généraux pour essayer de mobiliser le plus grand nombre d'acteurs. Je suis très, très heureux, je dois dire même fier, qu'on ait 125 partenaires de la société civile qui soient partenaires des états généraux. Alors, on avait des matrices. Là, on a pour présenter nos propositions, une espèce de temple. Nous, si on devait résumer en une phrase, ça serait mettre en place. Est-ce que c'est une agence, un ministère, peu importe la forme juridique. C'est vraiment réunir les forces autour de France Transition Inclusive, en faire une priorité d'action, pour faire la transition écologique et numérique un levier d'inclusion professionnelle pour chacun, avec un pilier sur mieux reconnaître les compétences de chacun. On a beaucoup parlé de la VAE qui peut être complètement renouvelée, et le numérique peut y contribuer. Les badges numériques peuvent vraiment changer la donne sur la reconnaissance des compétences. Le deuxième axe, c'est mieux accompagner les transitions professionnelles. Le CPF peut devenir une plateforme publique de services d'accompagnement de bout en bout des transitions professionnelles. On a la généralisation du CEP, la généralisation de la FEST. Il y a vraiment plein d'outils pour mieux améliorer, mieux accompagner les professionnels. Le troisième axe, c'est investir dans l'adaptation des compétences. Et là, il y a 15 milliards qui ont été mis en place par l'État en 2017 dans le plan d'investissement dans les compétences, mais c'était pour accompagner les 2 millions de personnes qui étaient éloignées de l'emploi. Pour ceux qui sont en risque de perte de compétences du fait des transitions, il n'y a pas grand-chose. Or, ils en ont besoin aussi. Nous, on pense qu'il faut investir massivement là-dedans. Et comme on l'a dit, c'est un investissement qui sera rentable. Et pourquoi pas des dotations individuelles, une dotation ou un revenu de transition écologique, peu importe le nom qu'on appelle, mais une dotation pour aider les gens à faire cette transition. Ensuite, il faut engager les entreprises et les territoires. Et puis, il y a tout un sujet dont on a finalement peu parlé aujourd'hui, mais qui est aussi fondamental, c'est le fait d'adapter les droits des travailleurs à l'économie numérique. On doit, notre droit du travail, il est quand même pour une large part fondé sur l'économie industrielle. Et le numérique change la donne. Le management algorithmique, par exemple, ce n'est pas du tout le management traditionnel. Et on doit adapter les droits des travailleurs à ça, pas seulement les travailleurs des plateformes, mais l'IA au travail, ça concerne tous les travailleurs. Voilà. Les risques de surveillance abusive, de perte de contrôle sont réels et donc il faut réguler. En même temps, c'est un outil de productivité exceptionnel et il faut le promouvoir, mais trouver le juste équilibre. Et dernier point, on a parlé de manque de visibilité. Eh bien, faisons un observatoire un peu transversal qui coordonne les efforts de chacun. Mettons en place non plus seulement une grande école du numérique, mais une grande école de la transition inclusive qui englobe aussi les sujets de transition écologique pour faciliter l'adéquation entre l'offre et la demande de formation sur ces transitions. Et puis, on a besoin d'une gouvernance qui soit plus inclusive elle-même, qui associe à la fois l'État dans son rôle, de coordination et les collectivités locales et les partenaires sociaux. J'en ai déjà trop dit, mais je passe la parole à Gilles de Margerie.
Merci Mathias. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas, je vais demander un cours tout à l'heure à Bettina Laville, mais je ne sais pas dire en ukrainien ce qu'elle a dit tout à l'heure. Mais je voudrais le dire si j'en avais la capacité. Ce que nous vivons depuis quelques jours, c'est peut-être, j'espère que non, mais c'est peut-être un tournant que nous n'avons jamais vécu dans nos vies, aucun d'entre nous. Ce qui s'est passé il y a plus de 30 ans avec la chute du mur nous laissait entrevoir l'espoir d'une Europe réconciliée, paisible, ne connaissant pas de guerre, et cet espoir vient de se fracasser. Pardon d'être un peu solennel, mais je trouve que l'ébranlement que ça peut représenter dans nos vies méritait surabondamment ce que Bettina a fait tout à l'heure. Et donc, tout à l'heure, si tu veux bien, tu me diras les quelques mots pour que je sache dire ce que tu as dit tout à l'heure. Merci Mathias de m'avoir invité. Pour nous, c'est passionnant parce que ce que toi, les équipes autour de toi, tous vos partenaires dans ce projet, vous avez accompli, ça ressemble à des choses qu'on a envie de faire. Il y en a quelques-unes qu'on fait, mais il y en a d'autres qu'on ne fait pas. Et il y a une proximité dans les préoccupations, dans beaucoup des conclusions, qui est extrêmement grande avec ce que nous faisons chez France Stratégie. Et je voudrais juste partager avec vous quelques éléments de ça, parce que ça a quelque chose de très réconfortant pour nous quand, dans la société civile, nous voyons que se lèvent des idées, se structurent des réflexions, des études, qui nous donnent le sentiment que il y a du répondant et que nous-mêmes nous pouvons répondre à un certain nombre de choses qui viennent de la société civile. En quelques mots, d'abord en commençant tout simplement par le titre, parce que le titre est puissamment signifiant que vous avez choisi, et je voudrais m'arrêter un instant sur la notion d'investissement social. C'est une chose d'une extrême importance. On a tendance à parler des dépenses sociales, on a tendance à parler des charges sociales. On n'a pas tellement tendance à penser à ça comme un investissement. Pas toutes, d'ailleurs, seraient de bons investissements. Mais à partir du moment où on se pose la question d'un investissement et qu'on se projette donc dans l'avenir et qu'on dit que les dépenses sociales ou l'investissement social contribuent à la construction de l'avenir commun, on change complètement de perspective. Nous avons, il y a quelque temps, fait une méthodologie d'analyse socio-économique, c'est-à-dire en fait de prise en compte des externalités sur les politiques qu'on pourrait qualifier d'investissement social. Et nous pensons qu'il va falloir utiliser ça de plus en plus souvent, parce que assez souvent, il y a des dépenses qui sont classifiées comme charges courantes, qui ne sont pas des investissements comptablement et qui ne sont même pas pensées comme des investissements. Et donc, cette notion d'investissement social, c'est un moyen de faire le lien entre le courant et la projection dans l'avenir. Et c'est aussi une sorte d'appel à la responsabilité vis-à-vis des générations futures dans la manière dont on fait les choses. Et ça me paraît extraordinairement important. Sur les deux thèmes de la transition numérique et de la transition écologique, je ne reviens pas sur toutes les choses extrêmement pertinentes qui ont été dites aujourd'hui. C'est incroyablement difficile. C'est incroyablement difficile parce que les changements sont de très grande ampleur, de nature très, très différente selon qu'on parle du numérique ou de la transition écologique, et qu'au fond, on a la conscience du fait que c'est potentiellement un tsunami, mais un tsunami au ralenti, et donc qu'il y a toujours une hésitation dans la manière d'aborder ça entre dramatiser, dire que tout va changer demain et au contraire banaliser et ne pas repérer les lignes de force. Je donne juste quelques illustrations. Sur le numérique, il faut d'abord distinguer les métiers du numérique et le numérique dans les métiers. Et ça a été implicite dans beaucoup des choses qui ont été dites, mais je trouve qu'on n'en a pas tout à fait suffisamment conscience. Il faut bien sûr former à ces métiers très pointus du numérique, il faut former des scientifiques des données, il faut former des gens spécialistes de l'intelligence artificielle, c'est très important industriellement, c'est très important même pour la souveraineté, la liberté de nos choix dans l'avenir, mais là on parle de quelques milliers de personnes tous les ans, quelques dizaines de milliers quand on prend une exception un peu large, alors que le numérique dans les métiers, c'est presque tous les métiers. Alors, il y a beaucoup d'exemples qui ont été cités. Et je voudrais revenir à celui qui a été cité par Yannick tout à l'heure à l'écran, des enseignants. Il a dit une chose extrêmement puissante. Il a dit il ne faut pas se contenter d'utiliser de l'intelligence artificielle quand on réfléchit au métier d'enseignement. Il faut aller au bout de la démarche de ce qu'elle peut apporter. C'est toujours le métier d'enseignant. Mais c'est aussi une manière de le transformer en profondeur si on s'y prend bien. Or, c'est un enjeu, mais absolument déterminant. Nous sommes un pays qui rêverait d'avoir une école qui produirait les résultats que le corps enseignant espère obtenir, que la communauté éducative espère obtenir, et qui n'y arrive pas. Nous ne sommes pas un pays où l'école réduit autant qu'elle le pourrait les inégalités sociales. Et il y a des raisons à ça. L'intelligence artificielle, peut-être, sera demain un moyen d'y arriver mieux, d'y arriver de manière plus pertinente, si elle devient un outil que la communauté enseignante peut s'approprier et qu'elle peut mobiliser pour l'aider à transformer la relation avec les élèves. Je donne juste cet exemple-là, parce que ce n'est pas un métier du numérique demain d'enseigner, mais il y a 1 million et quelques centaines de milliers de personnes employées à l'éducation nationale, dont la manière de travailler, dont l'exercice même du métier pourrait changer si l'intelligence artificielle, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, mais si l'intelligence artificielle permet de mieux aborder la relation avec l'élève, l'enfant, et c'est évidemment un enjeu absolument gigantesque. Alors, si on se pose la question sur la transition écologique et sur les métiers de la transition écologique, là, c'est tout à fait différent. Sur la transition écologique, en gros, on sait ce qu'on doit faire, on sait où on doit être, on sait donner des objectifs. L'humanité n'a jamais fait ça de son histoire. En 2050, on a un objectif de décarbonation qui est fondé, autant qu'on peut faire des exercices de ce type, sur les considérations scientifiques les plus robustes qu'on ait pu établir. Et donc, on connaît le point d'arrivée. C'est une chose qui ne nous est pas arrivée très souvent, d'avoir un horizon où l'essentiel de l'humanité se dit « voilà où je dois être en 2050 et éventuellement à la fin du siècle ». Pour autant, on ne s'en rapproche pas vraiment, on s'en éloigne même dans certains cas, et on ne sait pas comment s'y prendre pour y arriver. Alors, ça va avoir des impacts sur les métiers. Beaucoup de métiers vont changer, non pas au sens où le métier changerait comme le métier d'enseignant pourrait changer un jour avec l'intelligence artificielle, mais au sens où le poids relatif de certains métiers va beaucoup changer. Alors, on le sait pour le bâtiment, plus particulièrement pour le second œuvre du bâtiment, mais aussi pour la partie industrialisable du bâtiment. On y pense aussi dans des secteurs liés au transport, où on voit qu'il peut y avoir des mutations. Le cas le plus extrême, c'est celui de la projection du Shift Project qui était cité tout à l'heure, qui dit, au fond, on va remplacer l'industrie de l'automobile par la réparation des bicyclettes. Je ne sais pas si les ordres de grandeur qui sont dans le Shift Project sont plausibles, mais c'est ça le genre de transformation. Ce n'est pas un nouveau métier de réparer les bicyclettes, mais s'il y en a 200 000 de nouveau, ça devient quelque chose de tout à fait sensible dans la transformation du monde. Alors, comment est-ce qu'on peut s'emparer collectivement de ces sujets avec l'espoir de faire avancer les choses dans la bonne direction ? C'est au fond la mère de tous les problèmes et on ne sait pas par quel bout le prendre. Il y a un bout, je le disais à l'instant, qui est assez solide, qui est l'impératif de la transition climatique. C'est autour de lui que tout le reste se structure. Mais on commence à savoir, on l'a appris à la rude avec les gilets jaunes, que ça ne va pas si on est aveugle à l'impact que ça a sur les inégalités sociales. Et quand on commence à réfléchir à ça, on se rend compte qu'au fond, il y a derrière ce sujet deux sujets de nature très différente. Il y a comment est-ce que nous projetons à 20, 30 ou 40 ans un système de protection sociale qui a été construit pour la croissance et dans des périodes durables de croissance et de gains de productivité. Beaucoup des mécanismes fondamentaux du financement de la protection sociale et de l'organisation de la dépense en protection sociale, il y a des connaisseurs dans la salle qui le diraient mieux que moi, beaucoup dépend de la manière dont, dans la durée, dans une économie à productivité durablement ralentie en termes de gains annuels et à croissance modeste, on réussit à faire face et à préserver un système de protection sociale alors que nous vieillissons. Et ça, on sait assez bien le dire à 20, 30 ou 40 ans sur les principaux risques. Donc, ce n'est pas un avenir inimaginable. En revanche, rapprocher cet avenir qu'on peut imaginer, qu'on peut quantifier, sur lequel on peut faire vraiment de la prospective chiffrée, de la prospective chiffrée qu'on peut faire sur la transition climatique, ce n'est pas un exercice qui se fait beaucoup. Et je voudrais ajouter une troisième dimension à laquelle je trouve qu'on ne pense pas assez. Nous sommes un pays qui se croit très inégalitaire, mais qui ne sait pas exactement en quoi il est très inégalitaire. Sur les inégalités de patrimoine, nous sommes plus ou moins comme les autres pays riches, c'est-à-dire très inégalitaires, beaucoup plus inégalitaires sur les patrimoines que sur les revenus. Sur les inégalités de revenus, nous sommes, parmi les pays comparables, plutôt dans les moins inégalitaires. Et c'est vrai, pas simplement après taxation, redistribution et prise en compte des prestations, c'est vrai même au niveau des revenus primaires. Quand on le regarde de près, c'est une des choses que nous avons découvertes en creusant un petit peu au cours des dernières années. Et donc, nous avons le sentiment, malgré ça, d'être un pays très inégalitaire. Et pourquoi est-ce que nous avons ce sentiment-là ? C'est parce que nous constatons des inégalités de destin qui sont extrêmement puissantes et extrêmement ancrées. Et ces inégalités de destin, elles se jouent à chacune des étapes de la vie. Tout ce qui a été dit tout à l'heure sur les ruptures entre l'accueil du jeune enfant, la thématique des 1000 premiers jours, des premiers pas, l'arrivée dans le système scolaire est d'une extrême importance. Et à chacune des étapes de ça, dès avant la naissance sans doute, à la naissance, dans les trois premières années, entre 3 et 6 ans, et au-delà, il y a des pertes de chance. Il y a des pertes de chance pour ceux qui ne sont pas nés au bon endroit, qui ne sont pas nés dans la bonne famille, qui n'ont pas la bonne origine migratoire. Je le dis simplement, mais ces pertes de chance sont cumulatives. Si, parce que vous êtes dans le mauvais quartier, vous perdez 5 ou 10% de chance d'aller quelque part, et que c'est la même chose à chacune des 5 étapes suivantes, à la fin, vous avez une solution, une situation d'une société immensément inégalitaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les inégalités sociales, les inégalités de destin qui se transmettent d'une génération à l'autre, elles ne peuvent se résoudre que si on agit avec le temps d'une génération entière en tête. Et ça, c'est quelque chose dont je trouve que nous ne l'avons pas assez souvent à l'esprit. La politique de lutte contre la pauvreté, la politique de réduction des inégalités de destin, c'est un projet pour une génération entière. Et donc, si on reprend ces trois fils de la transition climatique, de la sauvegarde d'un système de protection sociale très puissant dans une société qui vieillit avec une croissance faible, et de la lutte générationnelle contre les inégalités de destin, on voit qu'on a besoin d'être capable de tenir ensemble des projections à 20 ou 30 ans et d'élaborer des politiques qui, et ce point a été évoqué tout à l'heure, ne sont pas nécessairement du plan comme on en faisait dans les années 50, mais qui supposent une certaine capacité de synchronisation, d'orchestration, de mise en cohérence de domaines qui sont souvent traités très séparément. Parce que si nous ne faisons pas ça, si nous ne luttons pas contre les inégalités de destin, si nous ne préservons pas notre système de protection sociale, notre société qui est déjà extrêmement défiante et qui a le sentiment d'être extrêmement injuste n'acceptera jamais les efforts que va requérir la transition climatique. Et donc, il y a un enjeu absolument crucial dans la capacité à tenir ensemble tous ces fils si nous voulons que chacun d'entre eux réussisse. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Tu me donnes encore 2-3 minutes? Alors, au fond, c'est quelque chose autour de quoi on tourne maintenant depuis 2 ans. Et on voit très bien que quand on se pose la question dans ces termes, on bute sur une chose très simple, qui est qu'un élu, sitôt qu'il est élu, est suspecté le lendemain de ne plus être tout à fait légitime et qu'on lui demande de démontrer sa légitimité à tout moment. L'effritement de la légitimité de la démocratie représentative est un sujet absolument majeur et un handicap absolument majeur pour pouvoir aller de l'avant dans les 3 grands domaines que je vous ai dit. Si on veut y remédier, il faut faire feu de tout bois. Et faire feu de tout bois, ça veut dire articuler intelligemment la démocratie représentative avec toutes les formes nouvelles de démocratie citoyenne, que ce soit les conventions citoyennes, les grands débats, les méthodes participatives au niveau local, tout ça doit être mobilisé pour contribuer à relégitimer dans la durée l'action publique. Et la même chose vaut pour la démocratie sociale. La démocratie sociale aujourd'hui, dans les grands groupes, elle est très marquée par la nécessité d'appliquer le droit du travail. Il faut qu'elle retrouve sa dynamique propre, qui est de permettre un dialogue social de qualité. C'est faisable, ça demande un peu un changement d'approche par rapport à la manière dont les choses ont été faites au cours des dernières décennies. Donc ces 3 fils, de la démocratie participative, de la démocratie sociale et de la démocratie représentative, doivent être articulés d'une nouvelle manière si nous voulons tenir les 3 grands objectifs qui nous projettent à au moins dans une génération. C'est le genre de sujet sur lesquels vous avez travaillé depuis des mois au cours de ces très nombreuses séances que vous avez animées. C'est le genre de sujet sur lequel nous essayons de travailler aussi chez France Stratégie. Et je crois que c'est ce que nous partageons, c'est si on prend au sérieux tout ça, il faut se donner les moyens de porter le changement à la distance d'une génération sur les choses essentielles. Et c'est ça que je voulais partager avec vous, parce que vous avez, dans les travaux que vous avez menés, poser les éléments de cette réflexion. Et moi, ça me rend très optimiste sur la capacité que nous avons à construire dans notre pays une vision partagée de ce genre de choses. Il faut 10 autres initiatives, il faut tout faire pour que l'écho de cette initiative soit le plus large possible. Nous, quand nous essayons de donner de l'écho à ce que nous faisons, c'est avec l'espoir qu'on contribue à la qualité du débat public et à faire avancer les objectifs dont je viens de vous parler. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, cher Gilles, pour ce discours particulièrement inspirant et de prendre de la hauteur à la fin de ces états généraux. C'était la cérémonie de clôture et c'est la fin. Et en même temps, je voudrais dire un dernier mot. D'abord, pour vous exprimer à titre personnel et au nom de tout le collectif de Le Plus Important, notre gratitude. Quand on a lancé ces états généraux, on espérait susciter une mobilisation collective. On ne pensait pas qu'il y aurait autant plusieurs centaines d'intervenants qui se mobiliseraient et qu'on aurait comme ça plus de 125 partenaires. Et au-delà de cette gratitude, ce que je voudrais, c'est lancer un appel à l'action. On n'a pas fait des états généraux pour les clore, mais pour lancer une dynamique. Les enjeux, ils sont devant nous. Les solutions, on a commencé à les identifier. Comme tu l'as dit, il y en a plein qui sont sur la table. Maintenant, il faut agir. Et il faut agir collectivement et il ne faut pas attendre que l'État ou un président ou une présidente agisse à notre place, c'est à nous de nous mobiliser. Et j'aimerais que cette dynamique collective qui a émergé pendant ces états généraux se poursuive. Donc on va d'abord rassembler toutes ces réflexions communes qu'on a pu mener ensemble pour faire un livre, pour publier des tribunes. Pour porter ces propositions dans le débat public et qu'elles soient reprises par les candidats et on va essayer de porter d'autres initiatives et donc restons ensemble pour essayer d'apporter des solutions à ces enjeux qui nous tiennent tous à cœur, parce que si vous êtes encore là à bientôt 20h un vendredi soir d'une semaine de vacances scolaires, c'est que vous y croyez et donc continuons à agir ensemble. Merci du fond du cœur à vous tous.
Vous pouvez continuer de voter sur le site. Les votes sont encore ouverts pendant 15 jours, donc n'hésitez pas à continuer à partager vos avis. Et puis surtout, pour ceux qui sont présents, un de nos partenaires nous soutient et nous avons donc un cocktail avec Meet Me Mama. Ça sera juste dehors et ravie d'avoir animé cette soirée avec vous, à vos côtés. Merci aux personnes qui nous suivent sur Zoom et au plaisir de vous compter toujours parmi nous. On est très actifs sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes pages d'hashtag le plus important.